Bonjour à tous. Bonjour particulièrement à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un personnage très connu et en même temps très peu connu. Ce n'est pas une charade. Un personnage dont on parle chaque année et que l'on met même en scène, mais qui est malgré tout très 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 peu connu. C'est pourtant un homme, oui parce que c'est un homme, que l'on gagne à connaître. Un homme que pour ma part j'apprécie beaucoup et que j'admire pour son caractère, évidemment, pour le rôle qu'il a joué dans le plan de Dieu. Alors voilà une énigme intéressante, vous avez tous trouvé qui c'était, je suppose. Non ? Non, personne. Oh, j'ai pas donné assez d'indices. Un autre indice. D'accord, on va lire le passage comme ça, vous êtes sûr de trouver. Très bien. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Alors vous allez me dire que nous ne sommes pas encore à Noël. En effet. Et qu'une prédication sur ce passage peut être un peu prématurée. C'est possible, mais ce n'est pas l'histoire de Noël qui m'intéresse dans ce texte. Mais plutôt la découverte d'un des protagonistes principaux qui pourtant est rarement mis en avant, sauf peut-être dans les crèches, que font nos enfants pendant les fêtes de Noël. Vous n'avez toujours pas trouvé ? Commence à se rapprocher de la vérité. Donc lisons donc notre passage. Donc j'ai dit du verset 18 à 25. Parce que je ne vais pas me perdre moi non plus. C'est pas l'évangile de Luc, c'est l'évangile de Matthieu. Ça commence bien. Voilà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc vous avez tous trouvé maintenant, hein? C'est clair? La tradition, c'est vrai, met beaucoup d'accent sur l'histoire de Noël, et met particulièrement l'accent sur Marie et Jésus. Mais Joseph, lui, est comme au second plan, avec le bœuf et l'âne. Même les bergers sont souvent plus connus que lui. Hein, quand vous faites les crèches et les fêtes de Noël, il y a beaucoup de bergers, il y a un seul Joseph, il est derrière, dans le fond de l'étable, à côté de Marie, mais bon, c'est Marie qu'on regarde, forcément, hein, avec son beau voile, puis le petit enfant qui vient de naître, Joseph, ben, c'est le second rôle. Pourtant, ce personnage peut nous apprendre beaucoup de choses, et gagne beaucoup à être connu et reconnu. Alors, que savons-nous de Joseph, en clair? Matthieu, que nous venons de lire, nous présente un personnage modeste, effacé même, et peu connu. Pourtant, c'est un homme auquel j'aimerais pouvoir ressembler, moi, pour son caractère. Joseph est descendant de David. Déjà, c'est un bon début. Il est donc de lignée royale. Nous voyons cela dans la généalogie décrite par Matthieu au chapitre 1, versets 1 à 17. On ne va pas la lire, c'est un peu long, puis c'est que des noms. Mais on voit que Joseph descend directement de David. C'est important. Joseph, nous savons aussi, est charpentier. On voit ça dans Matthieu 13, 55, hein, où les gens disent, mais n'est-ce pas là le fils du charpentier, en parlant de Jésus, et n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Alors il est charpentier, c'est un beau métier. Joseph n'est pas riche. En ce temps-là, les charpentiers, ça ne gagnait pas beaucoup d'argent, certainement. Donc il n'est pas riche. Dans Luc 2, 22 à 24, on voit que Joseph, le jour de la présentation de Jésus au temple, offre un sacrifice, comme il est prescrit, mais deux tourterelles, ce qui correspond au sacrifice le plus modeste qu'un Israélite pouvait offrir selon sa prospérité. Donc sa prospérité était minime, certainement. Donc c'était une famille très modeste, et Joseph travaillait dur pour faire vivre sa famille. C'est à peu près tout ce que l'on sait de la situation de Joseph. C'est pour dire si la Bible ne s'étend pas sur l'histoire et sa vie. Joseph est un peu l'oublié de la crèche, comme on a dit, le solitaire, second rôle. Pourtant, il est le serviteur indispensable sans lequel rien n'eût été possible. Mais au-delà de la situation de Joseph, c'est plutôt, comme je l'ai dit, son caractère qui m'intéresse ce matin et qui va nous intéresser, j'en suis certain. Le premier trait de caractère qui nous est rapporté sur Joseph est qu'il était un homme de bien, ou dans d'autres traductions, un juste, qui était juste. En effet, apprenant que sa fiancée Marie était enceinte avant d'avoir habité avec lui, c'est pas rien, Joseph décide de rompre secrètement avec elle afin de ne pas la diffamer. Il aurait pu la dénoncer publiquement afin de protéger sa réputation d'homme, mais il a préféré protéger sa fiancée quitte à s'exposer et à exposer son propre honneur. Il est intéressant de noter à ce moment-là que Joseph est juste en n'observant pas la loi de Moïse, puisque en cas d'adultère, la loi prévoyait une exécution des coupables. Dans Deutéronome 22, verset 23, on peut lire ça. Mais Joseph place l'amour au-dessus de la loi de Moïse. C'est important parce que Joseph est une figure de l'homme juste, non pas selon l'Ancien Testament, mais selon la nouvelle alliance en Christ. Maintenant, l'amour des autres l'emporte sur la loi de Moïse. L'amour est l'accomplissement de la loi, dira l'apôtre Paul. C'est important. Parce qu'il y a évidemment une époque charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la naissance de Jésus. Et à ce moment-là, tout change. Et les lois changent également. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection. Dieu est en train de donner une loi, une nouvelle alliance d'amour. Nous voyons dans notre passage également que Joseph est prophète. Pourquoi? Parce que Dieu lui parle directement. Il reçoit la visite de l'ange qui lui révèle la volonté de Dieu concernant Jésus. Il sera d'ailleurs guidé 3 fois par Dieu pour sauver la vie de Jésus et de Marie. Dieu lui parle directement, en songe. Ce n'est pas rien parce qu'il est à noter que dans le contexte judaïque de l'époque, il est tout à fait exceptionnel que Dieu s'adresse à quelqu'un de cette manière. À ce moment-là, en effet, il n'y avait pas eu de prophète depuis des siècles. Pour connaître la parole de Dieu, il n'y avait plus que la lecture de la Bible et son interprétation. Apparemment, donc, comme je l'ai dit, une nouvelle ère s'ouvre avec la venue de Jésus. On lit, évidemment, et on interprète la Bible toujours. Mais Dieu parle aussi directement aux hommes et aux femmes à nouveau. Il n'y a pas que Joseph qui a eu ce privilège. Zacharie a eu ce privilège également, Marie bien entendu, la mère de Jésus, à qui l'ange Gabriel a parlé, Siméon, qui reçoit Jésus quand il vient au temple, Anne également, une prophétesse. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Joseph a aussi un trait de caractère, trois traits de caractère en un, je dirais, qui est très précieux aux yeux de Dieu. Il est obéissant, il est humble, et c'est un homme de foi. On dirait, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup dans la Bible, ça fait beaucoup d'attributs. De la même trempe même, je dirais, qu'Abraham, pour moi. Qu'est-ce que l'ange lui dit ? Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comment croire à une chose pareille ? Franchement, que diriez-vous si, un père, vous êtes père, hein, et votre fille un matin vous annonce qu'elle est enceinte, mais qu'elle n'a jamais connu d'homme ? Waouh ! Je crois qu'il y aurait comme un problème, là. En tout cas, moi, j'en aurais un. J'espère que ça n'arrivera pas, hein. Joseph, pourtant, accepte la version de Dieu, même si elle le dépasse. Et je pense qu'elle le dépassait. Et comme Abraham crut que Dieu pouvait ressusciter son fils Isaac après le sacrifice, eh bien, Joseph croit que Dieu peut concevoir un enfant par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est une nouveauté quand même à cette époque-là, il n'y avait pas d'insémination artificielle ni quoi que ce soit. Bon, la science est complètement dépassée et Dieu fait des miracles. C'est donc un homme de foi. Son orgueil de mari trompé s'efface devant la parole de Dieu et il accepte, au lieu d'être le concepteur du futur enfant de Marie, d'être seulement le père adoptif. Il met donc sa fierté totalement de côté. C'est un homme humble qui accepte d'être utilisé totalement par Dieu. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Bah oui, c'est un homme obéissant. Il n'attend pas le surlendemain. Comme Abraham se leva de bon matin et prit son fils et alla au mont Morija, eh bien, Joseph prend sa femme avec lui le lendemain même. Le matin même, sans attendre, il prend sa femme avec lui, certainement d'ailleurs, soulagé d'avoir appris que Marie n'était pas infidèle. Mais quel était l'instrument de Dieu ? Joseph est également un homme pieux. On ne le voit pas dans le passage directement, mais il suit les préceptes de la loi de Moïse. Il fait circoncire Jésus le huitième jour, comme la loi le stipule, on voit ça dans Luc 2, 21. Il respecte les jours de purification pour Marie, Luc 2, 22. Il présente Jésus au temple, aussi Luc 2, 22, pour le consacrer à Dieu en tant que premier-né. Vous savez que tout premier-né d'Israël devait être consacré à l'Éternel, en réponse à la Pâque de l'Éternel. Il offre donc le sacrifice prescrit pour son rachat. Il se rend également avec sa famille à la fête de Pâques annuelle à Jérusalem, Luc 2, 41. Joseph est un homme pieux, il suit la loi de cœur. On a vu tout son caractère auparavant, il est juste parce qu'il suit la parole de Dieu, mais pas seulement parce qu'il suit la parole de Dieu, parce qu'il aime Dieu, parce que l'amour de Dieu est dans son cœur. Pour refermer un peu ce volet du caractère de Joseph, Joseph est un bon père de famille. Si, si, il élève bien ses enfants, en tout cas son premier enfant, et ensuite les autres également. Alors il protège sa famille lors de la fuite en Égypte, hein, pour échapper à Hérode. On voit dans Luc 2,40 que Jésus se fortifie et est rempli de sagesse. Son père l'accompagne dans sa fortification et dans la recherche de la sagesse. Jésus, on le voit dans Luc 2,51, est soumis à son père et à sa mère. Ah mais il a dû recevoir une bonne éducation. Ce n'est pas toujours le cas de nos jours. Alors, on s'est un peu penché sur le caractère de Joseph. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aimerais bien ressembler à un homme pareil. Et vous, je suppose également, en tout cas les hommes, hein. Voici donc un bref aperçu du caractère de ce Joseph, père adoptif de Jésus. D'ailleurs, petite chose qui me paraît importante. Le nom de notre personnage n'est-il pas prédestiné, comme d'ailleurs beaucoup d'hommes et de femmes de la Bible? On voit que dans la Bible, un nom n'est pas anodin. Il est donné en fonction de quelque chose. En effet, Joseph signifie en hébreu « Dieu a ajouté ». Pour Rachel, la femme de Jacob, on comprend. Elle nomma son premier-né, tant attendu, Joseph. Vous vous rappelez de Joseph, de l'Ancien Testament ? Car Dieu avait ajouté Joseph au fils de Jacob, que Jacob avait eu de sa servante. Et donc, la mère, Rachel, était tellement heureuse qu'elle l'appelait Joseph. Dieu a ajouté enfin un fils, un vrai fils, puisque c'est elle qui l'avait enfanté réellement. Elle avait fait le pas d'accorder à son mari d'avoir des enfants avec sa servante, parce qu'apparemment elle ne pouvait pas en avoir elle-même. C'était quelque chose qui se faisait à ce moment-là. Il était très important pour une famille d'avoir des enfants, des mâles de préférence et des filles également, bien entendu. Mais la lignée devait perdurer. Et c'était une ignominie, en quelque sorte, pour une femme d'être stérile. Donc le seul moyen qu'avait une femme stérile à ce moment-là de fonder une famille, c'était de donner sa servante à son mari. Ça nous paraît un petit peu bizarre maintenant, évidemment. Mais à ce moment-là, c'était légal. Donc, Joseph ne s'appelle pas Joseph par hasard. Ce que Dieu a donné qui manquait à Marie pour qu'elle soit enceinte, c'est la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Marie n'aurait jamais pu enfanter Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et Dieu a ajouté sa puissance pour que cela soit rendu possible. Alors voilà, nous ne connaissons rien d'autre de cet homme dont parle la Bible. Il est présent à peu près jusqu'aux 12 ans de Jésus dans la Bible, puis il disparaît définitivement. Entre les 12 ans de Jésus et les 33 ans de Jésus, on ne parle plus de lui. Et nous ne savons nullement d'ailleurs quand est-ce qu'il est mort. Mais finalement, cela nous importe peu. Le témoignage de sa vie parle fort. Voilà pourquoi j'aimerais ressembler à ce Joseph. Comme lui, j'aimerais qu'on puisse dire de moi, et vous, je pense que vous aimeriez qu'on puisse dire de vous, c'est un homme de bien. Un homme de bien, c'est un juste. Ne prenons pas ça à la légère. Pour être juste devant Dieu, il faut quand même passer un certain nombre d'épreuves en quelque sorte. Il faut croire en Jésus. Sinon, il n'y a pas de justice possible, puisque par notre propre nature, personne ici ne peut être juste. Le juste, c'est celui qui croit en Jésus et qui lui donne sa vie. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, nous dit Colossiens 3,14. Alors pour être juste, il ne s'agit pas de suivre une loi à la lettre. Il s'agit de suivre la loi d'amour, la nouvelle loi de Jésus. Être un homme de bien n'est pas donné à tout le monde, mais c'est ce que Dieu nous demande, à chacun, homme de bien ou femme de bien. On va essayer de féminiser et de masculiniser. Joseph était un homme, mais son caractère peut être aussi adressé à une femme. J'aspire également à ce que Dieu me parle directement. C'est ce qu'il a fait pour Joseph, et c'est ce qu'il fait évidemment par sa parole, par la méditation et l'étude de la Bible, et face à face, si c'est sa volonté. Ce n'est pas tous les jours le cas, n'est-ce pas? Et même c'est assez rare, mais ça arrive. Moi j'aime entendre Dieu me parler. Quand j'ouvre sa parole, c'est comme si j'ouvrais un haut-parleur. Il y a comme un dialogue qui s'installe. Je lis, Dieu me parle. Je prie, je parle à Dieu. Et vice-versa. Il y a quelque chose qui se passe dans la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement ou simplement un livre. Ce n'est pas l'histoire de Jésus ou l'histoire des rois d'Israël seulement. C'est la parole de Dieu, faite chair. C'est Dieu qui est en train de parler à nos cœurs. Et au-delà du texte, il touche nos cœurs directement. Alors évidemment, un ange a parlé à Joseph. Je ne sais pas si un ange vous a un jour parlé, peu importe, mais Dieu parle. Et il parle de plus en plus fort. Plus les temps avancent, et plus il parle fort. Il peut parler par sa parole, il peut parler par les événements qui se passent actuellement dans le monde. Alors certains l'écoutent, d'autres l'écoutent moins, d'autres ne l'écoutent pas du tout. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu parle, on l'entend. Parce qu'il connaît nos noms et il nous appelle par notre nom. Et à ce moment-là, ça change tout. Parce qu'on sait que c'est notre maître qui parle. Et on aime notre maître. Le but de la vie du chrétien, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. On est tous d'accord. Oui. On veut ressembler à Jésus. Ok. Dans l'humilité, en premier. C'est la première marche. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2:3. Pour moi, c'est un des plus beaux fruits de l'esprit, car il reflète directement le caractère de Dieu en nous. Autant Jésus s'est rendu humble et doux, autant nous devons rechercher cette beauté de l'humilité et de la douceur de Christ dans notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Parce que par notre puissance, nous ne pouvons rien faire. Et cette humilité et cette douceur vont rester totalement inaccessibles. C'est le fruit de la vie de Dieu en nous. Mais Dieu dit que nous devons le rechercher. Nous voulons ressembler à Jésus également dans la foi, comme Joseph. Dieu met tôt ou tard notre foi à l'épreuve. Et il s'attend à ce que nous réussissions ce test. Jésus nous a donné tout ce qui est nécessaire à la piété. Et comme Joseph qui a dû accepter de renoncer à donner son premier enfant à Marie et à adopter Jésus par la foi, nous aussi, nous devons accepter de nous dépouiller de notre propre volonté afin que Dieu puisse accomplir son plan parfait dans nos vies. Dieu nous demande de faire plier notre volonté à la sienne volontairement. C'est pas facile, hein ? Vous savez tous par nature que nous avons une volonté affirmée. Dans le monde même, c'est une qualité d'avoir de la volonté. Pour Dieu, avoir de la volonté, c'est savoir dire non au mal et oui au bien. Et ça, c'est savoir dire oui à Dieu et non au monde. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, ça. Quand vous témoignez à quelqu'un que l'amour de Dieu vous habite et que vous voulez qu'il habite en lui, et que pour cela il faut se donner à Jésus-Christ, je m'appartiens moi-même, je n'ai pas besoin de me donner à quelqu'un. Il y a comme une distance qui s'installe entre nous et cette personne, parce qu'elle ressent bien qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement différent entre nous et lui. Oui, on est différent, non pas par nos propres forces, mais parce qu'un jour, on a donné notre vie à Jésus. Et c'est la seule différence, je dis bien la seule, entre nous et le monde. On est soumis également au péché, dans une certaine mesure. On est capable de pécher, on est capable de faire des horribles péchés, autant que les gens du monde. Mais la différence, c'est que Jésus est notre avocat. Et que le Saint-Esprit nous pousse vers la sainteté. Nous voulons ressembler de plus en plus à Jésus également dans l'obéissance, comme Joseph. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, nous dit Philippiens 2, 7 à 8. Jésus a vécu toute sa vie sur terre en obéissance à son Père. De même, nous aussi, comme Joseph, ou comme Abraham, ou comme d'autres, nous ne devons pas différer notre obéissance, mais agir immédiatement, car Dieu s'attend à notre obéissance entière et immédiate. Alors l'obéissance, c'est la mise en action de la foi. Alors, moi j'ai la foi, je crois que Dieu existe, qu'il est mon sauveur, mais quand Dieu me demande d'obéir, c'est toujours plus difficile. C'est bizarre, hein ? Quand on doit mettre notre foi en action, il y a toujours des empêchements, il y a toujours autre chose de mieux à faire, hein ? Et on trouve toujours quelque chose de plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est égoïste, parce qu'on pense avant nous, avant les autres on pense à nous. Et ce qu'on veut, c'est être bien, c'est faire des choses agréables pour soi-même. Ça, c'est notre vieille nature qui nous commande cela. Mais quand Dieu nous demande d'obéir, eh bien, il nous demande de prouver que nous avons réellement foi en Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que notre foi est réellement mise à l'épreuve. C'est par l'obéissance qu'on prouve notre foi. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mais Joseph, lui, n'a pas tergiversé. Le jour même, le lendemain, il prit sa femme avec lui. J'aimerais aussi, et vous aussi certainement, qu'on puisse se souvenir de nous comme d'hommes ou de femmes pieuses, qui mettent Dieu à la première place dans leur vie. Afin, pourquoi ? Afin d'être sanctifiés et propres à toute bonne œuvre. Être un homme pieux, une femme pieuse, ce n'est plus ce que demandait l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'application stricte de la loi de Moïse. C'est plus que cela. Parce que le Nouveau Testament n'a pas aboli la loi. Il l'a complétée. Jésus est venu pour accomplir la loi. Et maintenant, la loi est beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Parce que sans Jésus, on ne peut pas. C'est une loi d'amour qui nous a été donnée. Et l'amour ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 14 à 17. Alors vous voulez être des hommes pieux et des femmes pieuses. Eh bien vous avez tout intérêt à prendre tout le barda de l'homme d'armes. C'est tous les jours un combat. Et vous aurez besoin de tous ces ustensiles pour pouvoir tenir ferme. Sinon, vous n'y arriverez pas. Et tout cela, c'est Dieu qui nous le donne. Parce que Dieu sait que c'est difficile. Et il ne va pas nous laisser orphelins. Il est là, tous les jours avec nous. Et c'est lui qui nous donne les moyens d'être saints. Pour terminer, j'aimerais bien, comme Joseph, qu'on puisse dire de moi que je suis un bon père de famille. Et tous les pères présents ici savent bien quelle est la difficulté d'un tel défi. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 3,4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Bon, il parle pour les diacres, d'accord. Enfin, c'est bon pour les autres aussi, je pense. Pour les diacres, c'est une obligation. Pour les chrétiens, c'est bien. Un bon père de famille, une bonne mère de famille, en voilà quelque chose de difficile. Pourquoi ? Parce que l'enfant, quand il a 15 ans, il devient autonome. Il veut faire un peu à sa tête. Il veut nous faire comprendre qu'il est grand, qu'il sait réfléchir. N'est-ce pas ? Enfin, pour ceux qui ont des grands enfants, on est tous passés par là. Il y a une période où l'enfant veut s'affirmer. Et ce n'est pas mauvais en soi. C'est la nature qui veut ça, c'est normal. Il est en train de devenir un homme ou une femme et il a besoin qu'on le reconnaisse comme une personne adulte. Et c'est un passage un peu délicat. voudrais dire. Et il n'y a que par Dieu que nous pouvons être de bons parents. Par nous, ben, on est tous égoïstes, plus ou moins, et on n'a pas envie que nos enfants s'opposent à nous. C'est plutôt désagréable en général. Mais la Bible dit que nous ne devons pas non plus irriter nos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Alors l'enfant est soumis, ok, mais on ne doit pas le décourager. Donc il y a un équilibre à obtenir, et cet équilibre vient de Dieu, dans la famille. Il faut que ces enfants soient dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Parfaite honnêteté. C'est important pour Dieu l'honnêteté, autant pour les pères et les mères d'ailleurs que pour les enfants. Et c'est quelque chose de difficile, parce que le monde qui nous entoure est plein de tentations, et ce n'est pas toujours simple de garder le cap. Donc, en quelque sorte, et en conclusion, bien élever ses enfants, en fait, c'est les aimer et les diriger dans le Seigneur. Et cela n'est possible que par la puissance de Dieu. Alors Joseph, cet illustre inconnu dont nous ne savons pas quelque chose, ou très peu de choses, qu'en pensez-vous maintenant? Alors c'est un personnage dont on ne parle que rarement. Mais il ne s'en sort pas trop mal quand même, ce Joseph, n'est-ce pas? Le peu de renseignements que l'on trouve sur lui le dépeignent comme un homme bon, pieux, humble, obéissant, attentionné envers sa famille. Alors moi, enfin, nous pouvons comprendre maintenant pourquoi Dieu l'a choisi pour participer à son plan rédempteur des hommes. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Autant il a choisi Marie, autant il a choisi Joseph. Et les deux étaient prédestinés à cela. Bien que je ne pense pas que Joseph fût un homme parfait, certainement, comme Marie, il aurait pu dire, et on va terminer avec ça, s'il en avait eu l'occasion, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de son serviteur. » C'est Marie qui s'adresse à Dieu. Mais Joseph aurait très bien pu faire la même chose. Mais sa réponse à la sollicitation du Seigneur est tout aussi belle d'ailleurs, quoique un peu moins poétique. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. L'obéissance, c'est un poème devant Dieu. C'est ce qui importe le plus pour Dieu. Ça ne veut pas dire que Marie n'a pas obéi, elle a obéi également. Et en plus, elle était poète. Donc. Et ça, les femmes, vous savez, ça aime bien. Les hommes, on est toujours un peu en dehors. Ouais. Faire des poèmes, des écritures, des lettres d'amour, tout ça. Bon, ça nous dépasse un petit peu. Hein. Ouais. Mais bon, le plus important, c'est de démontrer notre amour. Alors que Dieu nous trouve dans les mêmes dispositions de cœur que Joseph, et que nous puissions répondre promptement à l'appel de Dieu, car il veut nous utiliser dans le grand plan qu'il a formé d'avance pour notre vie. Et je vais vous lire un petit verset pour terminer, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Voilà, vous en savez plus sur Joseph maintenant. Je suis presque certain que vous n'avez jamais entendu une prédication sur Joseph. Celui-ci, en tout cas. Moi, je trouvais que ça manquait. Voilà, maintenant, on a rétabli un petit peu l'honneur de ce personnage qui est un peu oublié dans la Bible. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te remercier pour toute ta parole, Seigneur, parce que toutes les personnes qui sont décrites dans ta parole sont importantes, Seigneur. Et c'est vrai que Joseph est un peu mis de côté. Malgré tout, tu l'as béni, tu l'as utilisé, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour son caractère, Seigneur, l'exemple qu'il nous donne, Seigneur, de soumission, d'humilité, d'obéissance, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous voulons ressembler à un tel homme, Seigneur, qui lui-même a voulu ressembler, même s'il ne connaissait pas encore, à Jésus, Seigneur, le divin modèle. Merci pour tous les hommes que tu mets sur notre chemin, Seigneur, et qui veulent te ressembler. que nous puissions tous ensemble nous mettre sur le même chemin vers toi, Seigneur, vers la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous rend capables de rechercher cette sanctification. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.